Salut à tous, c'est Élise, bienvenue sur la School Radio pour ce troisième hebdo de l'année. Autour de moi, plusieurs membres de l'équipe vous ont préparé un contenu passionnant. Salut l'équipe.
Bonjour.
On commencera avec Lila qui nous présentera son sport passion, la natation. Emma interviendra quant à elle sur le métier des profs des écoles. Ensuite, nous retrouverons Lily qui a posé quelques questions indiscrètes à deux professeurs. J'ai hâte d'entendre ça. À la suite d'une petite pause musicale que je vous ai préparée, nous retrouverons Arthur qui nous parlera des joueurs de basket français du NBA. Enfin, nous terminerons avec Morgane qui nous parlera de la danse hip-hop. Je me tourne tout de suite vers l'équipe de la web radio et je passe la parole à Lila qui va vous parler natation.
Coucou Télis, coucou à tous, c'est ma première chronique et aujourd'hui je suis très heureuse de vous parler de la natation, un sport dont je suis passionnée depuis toute petite. La natation est un sport très bon pour la santé, elle renforce les muscles du corps et du dos notamment. Elle contribue également au bon fonctionnement du corps en développant notre endurance. C'est aussi bon pour l'esprit, le fait de flotter dans l'eau est très agréable. Il existe 4 principales nages. La brasse, c'est celle qu'on apprend. C'est pour cela qu'on l'appelle la nage du débutant. Cette nage évite de mettre la tête sous l'eau. Mais il faut quand même passer du temps pour bien l'apprendre. Le crawl, c'est une nage plus technique et c'est celle qui permet d'aller le plus vite. Il faut maîtriser aussi bien les gestes que les techniques de respiration. Le dos crawlé, c'est une nage très relaxante qui est notamment recommandée si on souffre de problèmes de dos. Enfin, le papillon. C'est une nage technique très physique et rapidement fatigante. Cette nage permet de muscler tout le corps grâce au mouvement d'ondulation. En ce qui me concerne, je pratique ce sport 4 fois par semaine. Plus tard, je vise l'objectif d'être sportive de haut niveau et d'être nageuse professionnelle, car la natation est un sport incroyable pour moi. En conclusion, la natation est un sport fantastique, car on peut la pratiquer aussi bien en loisir qu'en compétition. De plus, pour l'aspect sportif, on peut toujours développer de nouvelles techniques pour être plus rapide et moins se fatiguer dans l'eau. Au revoir à tous et à bientôt.
Merci beaucoup Lila, voilà un sujet qui me donne envie d'aller piquer une tête. Retrouvons désormais Emma qui va nous faire découvrir le métier de professeur des écoles.
Bonjour à tous, c'est Emma et aujourd'hui je vais vous parler du métier de professeur des écoles. C'est celle ou celui qu'on appelle maîtresse ou maître d'école. Je vais commencer par vous présenter ce métier et lister quelques avantages et inconvénients. Puis, je vous donnerai mon avis et un petit bonus que je vous réserve à la fin. Le métier de professeur des écoles consiste à apprendre aux élèves différentes matières. Ils leur apprennent à lire, écrire, compter, mais aussi à s'intéresser et comprendre le monde qui les entoure. En plus du français et des maths, il y a du sport, de la musique, des arts, des langues vivantes, de l'histoire-géographie, l'utilisation du numérique, etc. Tous ces apprentissages sont utiles tout au long de notre vie. Ce sont des bases indispensables. Les professeurs des écoles peuvent avoir des classes de la maternelle au CM2. Ils aident particulièrement les élèves qui ont des difficultés. Ils sont là pour les écouter et aussi aider ceux qui sont embêtés ou harcelés. Le harcèlement commence malheureusement dès la primaire. Ce métier n'est pas facile. Il faut apprendre aux élèves le respect, la patience, l'écoute et la rigueur. Il faut savoir surveiller et gérer plein d'élèves. Il faut être très organisé pour organiser ses classes et le travail. Mais il y a aussi des avantages. C'est un métier qui est très enrichissant car il permet de voir évoluer les élèves qui ont de plus en plus de connaissances et se débrouillent de mieux en mieux. Parlons aussi des vacances, qui sont les mêmes que celles des élèves, mais en réalité, les enseignants travaillent un peu durant ces vacances. Selon des statistiques, même si les professeurs des écoles ont officiellement 24 heures de cours devant élèves, il est estimé qu'ils travaillent 43 heures par semaine en moyenne. Après cette présentation du métier avec ses avantages et inconvénients, je vais vous donner mon avis. Je pense que ce métier est passionnant, même s'il demande beaucoup de travail et de patience. Je trouve qu'il est important de respecter les enseignants, car c'est quand même grâce à eux que nous avons appris tout ce que nous savons aujourd'hui. En conclusion, je vais vous révéler la raison de cette chronique. Ce métier c'est celui que je voudrais faire. Je sais que j'ai des assez longues études à faire, un bac plus 5 et un concours à passer. Quand on a un rêve, on fait tout pour l'atteindre. À la prochaine, au revoir.
Merci Emma, c'est un métier passionnant. Peut-être que cette présentation aura donné l'envie à certains d'entre vous de choisir cette voie. Restons avec les professeurs. Lily est allée poser quelques questions indiscrètes à deux professeurs. On veut tout savoir sur eux, donc on t'écoute.
Bonjour à tous, moi c'est Lily, je suis élève en 5e. Je vous propose cette année des interviews de profs et d'élèves. On découvrira aussi bien la vie secrète des profs que la vie secrète des élèves. Pour cette première, je me suis intéressée à la vie secrète des deux profs, Madame Mort, qui est monitrice à la maison familiale et rurale de Bunéville, et Monsieur Gavinier, qui est professeur documentaliste au collège. Bonjour Madame Mort, vous enseignez de nombreuses disciplines auprès d'élèves de 4e, de 3e, de CAP et de bac pro agricole ?
Oui, c'est ça.
Bonjour Monsieur Gavinier, vous êtes le créateur de cette web radio et professeur documentaliste. Vous gérez le CDI et donnez des cours aux élèves du collège ?
Tout à fait, je suis professeur documentaliste, chargé de l'éducation aux médias et à l'information au collège. Et cette web radio, ça va faire 8 ou 9 ans déjà qu'elle existe.
Commençons tout de suite cette interview en nous dirigeant dans la salle des profs. Que faites-vous dans cette si mystérieuse salle des profs ?
On parle des élèves, on échange sur leurs problématiques, sur les absences qu'il y a au niveau de la journée, sur les groupes qu'on peut faire, les projets qu'on peut faire aussi. On parle de multiples choses et puis de la vie quotidienne également.
Alors nous, en salle des profs, c'est vraiment la même chose. En fait, on parle de différents sujets. On peut parler des élèves, des actualités, de ce qu'on va faire. Et puis, pour moi, j'ai cette situation qui fait que je travaille beaucoup en partenariat avec les collègues. Donc, ça permet de développer des partenariats. Et surtout, puisqu'on est à la web radio, moi, ça me fait penser à tous les projets de podcast qu'on peut faire avec les enseignants.
Quelle est l'ambiance là-bas ?
Je dirais qu'entre formateurs, on rigole beaucoup. Il y a une très bonne ambiance. On peut échanger librement, il y a une grosse ouverture d'esprit au niveau de tous les collègues. Enfin, l'ambiance est très bonne.
Et nous, généralement aussi, l'ambiance elle est très bonne. Hein. Chacun met sa personnalité et généralement, on essaie, c'est vraiment un moment pour décompresser. Ça nous permet de prendre un café et puis de discuter.
Est-ce que l'équipe est sympa ?
Chez nous, oui, tout le monde a son caractère, tout le monde a ses défauts. Je dirais que... on est tous complémentaires, on amène tous notre petite particularité et c'est ce qui fait une bonne ambiance et une équipe sympa.
Pareil, hein, je pense que notre équipe est vraiment, vraiment sympa, il y a un bon état d'esprit.
Quittons la salle des profs et partons en classe avec les élèves. Qu'est-ce que vous appréciez et qu'est-ce qui vous énerve le plus chez les élèves ?
Alors, ce que j'apprécie le plus chez les élèves, c'est leur motivation, leur bonne humeur, les sourires, les échanges qu'on peut avoir aussi avec eux. Ce qui m'énerve le plus, je dirais que c'est la mauvaise foi.
Je pense exactement la même chose. Alors, on peut passer de super bons moments avec les élèves parce que c'est des personnalités qu'on apprend à découvrir. Ils ont beaucoup d'humour. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous parce que faire cours, c'est aussi toutes ces relations interpersonnelles, en fait, c'est-à-dire échanger. Et ce qui m'énerve le plus, oui, c'est la mauvaise foi.
C'est quoi votre plus gros fou rire en classe ?
Comme moi, je commence à enseigner depuis septembre. Pour le moment, je dirais que ce sont des petites choses. Quand, par exemple, on loupe des mots ou on écrit des... ou quand on fait des photos tableaux ou ces choses-là. Enfin, voilà.
J'ai pas eu véritablement de fou rire. C'est-à-dire qu'on essaie toujours de garder son sérieux. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est cet échange plutôt d'humour avec les élèves qui est intéressant de montrer que, certes, on est prof, mais derrière, il y a un humain.
Est-ce que vous réglez beaucoup de problèmes avec les élèves en général ?
En MFR, je dirais oui, puisqu'en fait, on n'est pas prof. On a plusieurs casquettes. On est éducateur déjà, parce qu'on les éduque sur les temps de vie. Ils ont des services également, c'est-à-dire qu'ils fournissent des services de ménage, de plonge le midi. Donc là, on doit les encadrer. On mange avec eux aussi le temps du midi et le temps du soir. Et également, sur les veillées, on les encadre aussi. Et à côté de ça, on doit aussi les encadrer en cours, donc on est aussi des enseignants. On règle beaucoup de problèmes, en règle générale, on est les premiers interlocuteurs à qui ils font appel dès qu'il y a un souci. Et puis, on sait aussi intervenir, parce qu'ils ont un petit carnet chaque semaine, un carnet de liaison, sur lequel ils font signer à leur maître de stage ou d'apprentissage des appréciations, donc sur lesquelles on peut rebondir aussi. Et on a aussi beaucoup, beaucoup d'échanges avec les familles au niveau de la MFR.
Alors nous, on a une vie scolaire qui gère tous ces problèmes-là. Néanmoins, je sais que le CDI, c'est un lieu refuge pour beaucoup d'élèves. Donc c'est un lieu où ils viennent parler de leurs problèmes et moi je suis là aussi pour les écouter. J'ai cette chance d'être très souvent dans l'établissement. Et je fais également partie de la cellule phare, donc c'est la lutte contre le harcèlement dans les établissements scolaires, où là, on recueille la parole de tous les élèves. Alors, soit ils viennent me voir directement, soit ils viennent voir un des collègues de la cellule phare ou un autre adulte à qui ils peuvent se confier, soit ils envoient un mail. Et nous, on gère ces situations. On pourrait croire que c'est des enfantillages, mais quand on voit l'effet que ça peut avoir, on sait qu'il faut le gérer avec sérieux. Donc, on gère tout avec sérieux. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que le problème se résolve. Et si on n'arrive pas à le résoudre, malheureusement, ce qui peut arriver, ça peut aller jusqu'à la gendarmerie, puisqu'il y a un dépôt de plainte contre le harceleur.
Quelles sont les punitions ou les sanctions que vous mettez en place lorsqu'un élève déborde du cadre ?
Si l'élève a fait une petite bêtise, ça peut être copier le règlement avec une sanction derrière un travail par écrit. S'il y a du harcèlement, par exemple, chez nous, c'est une mise à pied directe avec un conseil de discipline derrière.
Donc, après, je pense que c'est à peu près similaire. Nous, on a vraiment un protocole selon la gravité des choses qui sont faites. Alors, si c'est un devoir qui n'est pas fait, il refait le devoir. Ou alors, il se prend ce qu'on appelle un motif. Et au bout de 3 ou 4 motifs, c'est une heure de retenue. Où là, il y a un travail qui est donné pour compenser cette absence de travail. Après, les sanctions un peu plus graves, c'est vraiment là si on est sur des cas de harcèlement, d'insultes, de violence, ce qui peut arriver. Donc on a une commission éducative qui est possible, où là on rappelle les règles, et si les règles ne sont pas respectées, si les engagements ne sont pas tenus par l'élève, là on passe à un conseil de discipline, et le conseil de discipline qui peut aller jusqu'à l'exclusion.
Les profs aussi ont été des élèves. J'ai quelques questions plus personnelles à vous poser à ce sujet. Quel a été votre meilleur et votre pire souvenir quand vous étiez collégien ?
Mon meilleur souvenir, ça a été au collège de Vittel, d'ailleurs, il y a quelques années. On était partis avec toute la classe en Espagne. Donc là, on a été dans des familles qui nous recevaient. On était par deux et nous avions visité Barcelone, le parc Güell notamment, les Ramblas. On a aussi pu goûter à tous les plats, toutes leurs spécialités et puis leur mode de vie là-bas. Donc c'était assez sympa. Mon pire souvenir, j'en ai pas forcément. Je dirais les punitions auxquelles j'ai pu avoir, ramasser les chewing-gums sous le préau, sous les tables. Voilà, c'était des heures de colle auxquelles j'avais droit.
L'un de mes meilleurs souvenirs, je pense que c'était un échange scolaire. Alors, il avait lieu en France. C'était un échange très, très intéressant parce que j'ai rencontré vraiment d'autres élèves dans notre établissement qui étaient très sympas. On a passé de très bons moments. On avait fait du char à voile. On était allé se promener un peu partout. C'était plus, des vacances même qu'un voyage scolaire, tellement c'était plaisant. Le pire souvenir, je dirais, c'était plutôt au lycée parce que le climat était différent. Le climat était beaucoup plus tendu. Il n'y avait pas d'ambiance dans la classe et quand il y a une mauvaise ambiance de classe, je pense que ça joue très défavorablement sur notre attitude à nous. Donc franchement, les années lycées n'ont pas été les plus plaisantes.
Avez-vous déjà été harcelé au collège ?
Non. Dans ma classe, oui, il y a des gens qui ont été harcelés. Moi-même, non. Je dirais non. Il y a eu des moqueries par rapport à mon nom de famille, mais sinon, voilà, des petites moqueries.
Alors moi, je dirais qu'on ne parlait pas du tout de harcèlement à l'époque. Moi, j'ai eu la chance justement de ne pas avoir été embêté, mais je sais que j'ai des copains, j'ai des copines aussi qui avaient été énormément embêtés et il n'y avait pas du tout ce qui est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'écoutait pas du tout leurs paroles.
Preniez-vous le bus ? Si oui, y avait-il des problèmes ?
Alors oui, je prenais le bus et oui, il y a déjà eu des problèmes dans le bus. Si on reparle de harcèlement notamment, une jeune qui pouvait se faire harceler dans le bus et frapper en descendant du bus, ouais. Ça, c'est là que ça se passait le plus. Ou alors des gens qui étaient très dynamiques dans le bus et qui gênaient le chauffeur, qui était obligé de s'arrêter assez souvent.
Merci à vous, Madame Mort et Monsieur Gavinier, pour avoir répondu avec sincérité et sans tabou à toutes mes questions. On se retrouve bientôt avec une nouvelle interview d'élèves, cette fois-ci. Nous rencontrerons des élèves de CAP, service à la personne et vente en milieu rural. À bientôt.
Merci beaucoup Lily et merci aux professeurs qui se sont prêtés au jeu des interviews. Tout de suite, une petite pause musicale. J'ai décidé d'apporter un peu de soleil avec une musique très dansante. Summer Party de Top Flower Productions. Bonne écoute! J'espère que vous aurez aimé ce morceau dynamique et entraînant. Ça donne envie d'être en vacances, vous ne trouvez pas ?
Bah moi j'ai bien trouvé, c'était intéressant et ça fait bouger ces genres de musique.
J'ai bien aimé, c'est de l'électro, j'aime bien la musique électro et oui ça me donne envie d'être en été, tout de suite, maintenant, dans une heure.
Oui, c'est j'ai bien aimé, c'est dynamique.
Passons à la deuxième partie de cette émission avec Arthur. Notre passionné de basket va nous présenter les joueurs français qui sont en NBA.
Et yo les gars, c'est Arthur, votre passionné de sport et tout particulièrement de basket. Je vais vous parler aujourd'hui des 14 Français qui évoluent en NBA. On commence cette chronique avec le plus âgé, Nicolas Batum. Il a 34 ans et joue au poste d'ailier à Philadelphie. Il doit arrêter les meilleurs scoreurs adverses, il doit tirer à 3 points et combler les manques du collectif. Il est surnommé Batman. On continue avec Evan Fournier, 30 ans. Il peut jouer arrière et ailier. Il est dans le collectif de New York mais son coach ne le fait pas jouer. Il doit shooter à 3 points et booster offensivement en sortie de banc. Il est surnommé le chauve de Charenton ou mort champagne. Rudy Gobert, pivot de 2m16, est âgé de 31 ans. C'est le maître de la défense de Minnesota. Il a été élu 3 fois meilleur défenseur de la Ligue. Il a 3 surnoms, The Stifle Tower, The French Rejection et Gobzilla. On repasse à la conférence Est avec Killian Hayes, le jeune meneur de 22 ans. Joue à Détroit. Il doit créer le jeu de son équipe et soulager Kate Cunningham. Frank Ntilikina, il y a peu de chances que vous connaissiez. C'est un meneur arrière de 25 ans. Il doit être efficace en sortie de banc. Il fait partie des Hornets de Charlotte, là où est évolué l'an dernier Théo Malédon. Il est surnommé French Prince. Revenons à Théo Malédon. Il a rejoint les Suns de Phoenix cette année. Le sixième homme de l'Oklahoma City, Ousmane Dieng, est un Français de 20 ans. Il joue au poste d'ailier et il doit marquer des points en sortie de banc. Maintenant, on va parler de 4 jeunes tricolores draftés cette année. La draft, c'est une soirée où chaque équipe de NBA va sélectionner à tour de rôle un joueur issu de l'université, du lycée ou de l'étranger. C'est comme cela que sont recrutés la majorité des joueurs évoluant en NBA. Il y a Victor Wembanyama, surnommé Wemby, Bilal Koulibaly, Ryan Rupert et Sidi Sissoko. Victor et Sidi jouent tous les deux chez les Spurs de San Antonio. Bilal joue à Washington et Ryan est à Portland. Les 4 sont dans leur année des 20 ans. Il y a 3 Français en two-way contract, c'est-à-dire qu'ils joueront à la fois en NBA et en G-League. Ces 3 joueurs sont Olivier Sarr, Moussa Diabaté et Malcolm Casalo. C'est fini pour cette chronique. Si vous souhaitez en savoir davantage sur cette saison de NBA, je vous conseille l'incontournable guide NBA de la saison 2023-2024, hors série de la série de magazines sportifs 5 majeurs. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine chronique sportive. Adios amigos.
Merci Arthur pour ce sujet captivant. J'ai appris plein de choses avec de nombreux joueurs que je ne connaissais pas. Le sport est aussi la danse. Morgane, à toi la parole pour nous présenter le hip-hop.
Salut, c'est moi Morgane. Pour ma deuxième chronique, j'ai décidé de vous parler d'une danse qui est l'une de mes passions, le hip-hop. C'est un mouvement qui est né dans les années 70 dans les ghettos noirs et latinos à New York. Depuis, le hip-hop s'est développé partout dans le monde. Le hip-hop, c'est un ensemble de danses. Le smurf ou popping, il s'agit de contracter et décontracter ses muscles en rythme. Le waking, il consiste à bouger les bras au rythme de la musique. Le locking, il se danse principalement avec le bassin, les pointes, les expressions du visage sont aussi très importantes. Le robot, c'est une danse avec des mouvements brefs et secs avec des blocages. Le breakdance, c'est l'une des danses les plus connues. Cette danse s'inspire de la gymnastique et des sports de combat. Les breakboys et breakgirls effectuent des mouvements acrobatiques au sol ou avec des rotations et des contorsions. Il existe plein d'autres danses encore, la house, le voguing, le crump, le new style, le freestyle, etc. Quand on commence à apprendre le hip-hop, on débute par des steps. Après avoir travaillé les pas, on peut commencer les figures au sol. Et les figures, ce n'est pas ce qui manque. Le freeze, c'est un mouvement de base du breakdance. Il s'agit de tenir en équilibre sans bouger. Il y a aussi le baby freeze. Les jambes et les pieds ne touchent jamais le sol. Le unstop, handstand, position en équilibre sur une ou deux mains. Et bien d'autres. Shoulder freeze, head freeze, chair freeze. Le tetris ou tuning, ce sont des mouvements de bras que l'on enchaîne en rythme seul ou à plusieurs pour dessiner des figures. Le liquid pop. Il consiste à faire des petites ou grandes ondulations en imaginant un fluide ou une énergie passant partout dans le corps. Les twirls, où on fait un mouvement de rotation du poignet et du bras tout en les montant. On l'enchaîne souvent avec le machoman qui consiste à faire comme si l'on montrait ses muscles. Il y en a énormément d'autres, comme la technique du robot que je vais rapidement vous expliquer. Il faut commencer par s'entraîner. Soulevez les épaules et laissez-les retomber brusquement. Puis déplacez-vous, arrêtez-vous soudainement et restez dans cette position sans bouger. C'est le verrouillage. Ensuite, entraînez-vous avec votre visage à avoir une attitude de robot. Une fois que cela est acquis, voici des astuces comment avoir un joli mouvement. Il faut que les bras suivent le mouvement des pieds. Il faut ensuite bouger la tête dans le même sens que les bras et les pieds. Vous vous penchez puis agitez les bras avant de vous redresser. Et vous faites pareil en vous déplaçant, toujours en ayant des mouvements brefs et en bloquant vos mouvements. Personnellement, je trouve que le hip-hop est assez facile, même pour les débutants. Il faut quand même beaucoup s'entraîner et ne pas avoir peur de tomber car les chutes sont fréquentes. Mais plus vous vous entraînez, plus vous maîtrisez des gestes et techniques et plus vous pouvez faire des choses surprenantes. C'est très plaisant de faire bouger son corps comme ça. À bientôt.
Merci à toi Morgane, ce sujet m'a donné envie de danser et je vais suivre tes conseils pour tenter d'être une pro de la danse du robot. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de notre émission. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt avec une émission spéciale Amour avec la Saint-Valentin. Merci à toute l'équipe, c'était Élise de la School Radio. À bientôt.